Chapitre 5, Présomption. Les jeunes prédicateurs qui n'ont que quelques années d'expérience dans la cause devraient manifester beaucoup de tact lorsqu'ils s'opposent dans leurs jugements et leurs opinions aux hommes qui ont eu leur vie intimement mêlée à l'œuvre de Dieu, et qui y ont pris une part active durant de longues années. Dieu ne choisit pas, pour mener une œuvre aussi importante, des hommes dont le jugement n'est pas mûr, et qui ont une trop grande confiance en eux. Ceux qui n'ont pas traversé les souffrances, les épreuves, l'opposition et les privations qu'ont endurées ceux qui ont conduit l'œuvre jusqu'à son actuelle condition de prospérité, devraient cultiver la modestie et l'humilité. Il faut qu'ils prennent garde à la manière dont ils s'élèvent, afin de ne pas courir à la ruine. Ils seront tenus pour responsables, car le Seigneur a fait briller pour eux la claire lumière de la vérité. J'ai vu que Dieu est attristé de la prédisposition qu'ont certains prédicateurs à murmurer contre ceux qui ont mené pour eux les plus rudes combats et qui ont tant souffert dans les commencements du message adventiste, alors que l'œuvre était difficile. Les prédicateurs expérimentés, qui ont peiné sous le poids de lourds fardeaux, alors qu'ils étaient peu nombreux pour les porter, sont précieux aux yeux de Dieu qui veille avec un soin jaloux sur ceux qui lui ont prouvé leur fidélité. Mais ceux qui sont prêts à trouver en défaut les serviteurs de Dieu qui ont blanchi sous le harnais et qui les accablent de reproches, cela déplaise à Dieu. Vos reproches et vos murmures, jeunes gens, témoigneront sûrement contre vous au jour du Seigneur. L'humilité chez les jeunes prédicateurs. Aussi longtemps que Dieu n'a pas mis sur vos épaules de lourdes responsabilités, tenez-vous à votre place et ne vous fiez pas à votre propre jugement. N'allez pas assumer des responsabilités pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Vous avez besoin de cultiver la vigilance et l'humilité et d'être persévérant dans la prière. Plus vous vivrez près de Dieu, plus vous discernerez clairement vos faiblesses et les dangers qui vous environnent. Des notions pratiques de la loi de Dieu et une claire conception du sacrifice expiatoire du Christ vous aideront à vous connaître vous-même et vous montreront en quoi votre caractère est encore éloigné de la perfection chrétienne. Dans une certaine mesure, vous ne voyez pas la nécessité d'être constamment sous l'influence divine. Mais cela est absolument indispensable lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Si vous négligez cela, si vous vous confiez en vous-même, si vous vous suffisez à vous-même, vous commettrez de grossières erreurs. Il vous faut constamment rechercher l'humilité d'esprit et apprendre que vous ne pouvez vous suffire. Celui qui sent sa propre faiblesse regardera plus haut, et il sentira la nécessité de recevoir du ciel des forces toujours renouvelées. La grâce de Dieu lui donnera un esprit de gratitude constante. Celui qui connaît le mieux sa faiblesse saura que la grâce incomparable de Dieu peut seule triompher des révoltes du cœur humain. Vous devez apprendre à bien connaître les points faibles aussi bien que les points forts de votre caractère afin que vous puissiez être constamment préservé de vous lancer dans des entreprises ou d'assumer des responsabilités pour lesquelles Dieu ne vous a jamais désigné. Vous ne devez pas comparer vos actions ou mesurer vos vies à n'importe quel idéal humain, mais à la règle du devoir révélée dans la Bible. Vous êtes encore trop dépendant de votre entourage. Si vous avez un grand auditoire, vous êtes gonflé d'orgueil et vous désirez lui adresser la parole. Mais il arrive que l'auditoire diminue, votre enthousiasme tombe, et il ne vous reste que peu de courage pour continuer à travailler. Certainement, il vous manque quelque chose. Vous ne vous cramponnez pas assez au bras de Dieu. Le Christ a cherché les hommes partout où il pouvait les trouver, dans les rues, dans les maisons, dans les synagogues, au bord de la mer. Il travaillait tous les jours, prêchant la multitude et guérissant les malades qu'on lui amenait. Et fréquemment, après avoir renvoyé ses auditeurs pour qu'ils puissent rentrer chez eux et dormir, il passait la nuit entière en prière, puis il reprenait le travail de bon matin. Il vous faut une étroite communion de l'âme avec Dieu, et vous l'obtiendrez par la prière et une foi vivante. Chaque prière offerte par la foi élève le suppliant au-dessus des doutes déprimants et des passions humaines. La prière donne la force de recommencer à combattre les puissances des ténèbres, de supporter patiemment l'épreuve et d'endurer les temps difficiles en bon soldat de Jésus-Christ. Si vous prenez conseil de vos doutes et de vos craintes, ou que vous essayez d'élucider tout ce que vous ne discernez pas clairement avant d'avoir la foi, vos difficultés ne feront qu'augmenter. Si vous allez à Dieu en sentant combien vous avez besoin d'être secouru, si vous vous présentez tel que vous êtes et que dans une humble et confiante prière vous lui exposiez vos besoins, à lui dont la connaissance est infinie, qui voit toutes choses dans la création et qui les soutient par sa volonté et sa parole, il pourra et voudra répondre à votre requête et il fera briller la lumière dans votre cœur et autour de vous. Car par la prière sincère votre âme est amenée au contact de l'Esprit infini. Il se peut que vous ne discerniez pas sur le moment le visage de votre Rédempteur penché sur vous avec amour, mais il en est ainsi. Peut-être ne sentez-vous pas son attouchement, mais sa main est sur vous dans un geste de tendre pitié. Vous avez besoin d'être sans cesse sur vos gardes de peur que Satan ne vous abuse par sa subtilité, ne corrompe votre esprit, et ne vous égare dans les ténèbres de l'erreur. Votre vigilance devrait se caractériser par un esprit d'humble dépendance de Dieu. N'ayez pas un esprit d'orgueil, ne soyez pas trop confiant en vous-même, mais ayez un vif sentiment de votre faiblesse et une confiance d'enfant dans les promesses de Dieu. Jour de lutte et d'angoisse. C'est maintenant une tâche aisée et agréable de prêcher le message du troisième ange, en comparaison de ce que cela représentait dans les débuts, alors que nous étions peu nombreux et considérés comme des fanatiques. Ceux qui ont porté la responsabilité de l'œuvre lorsqu'elle a fait ses premiers pas, ont su ce que c'était de lutter, d'être dans la détresse et dans l'angoisse. Jour et nuit, le fardeau pesait lourdement sur leurs épaules. Ils ne pensaient pas au repos ou à leurs aises, même lorsqu'ils étaient souffrants ou malades. La brièveté du temps les appelait à l'activité et les ouvriers étaient peu nombreux dans le champ de la moisson. Fréquemment, lorsque nous étions dans des situations difficiles, nous recherchions durant la nuit entière, dans la prière et dans les larmes, le secours de Dieu et la lumière qui éclairerait sa parole. Quand la lumière enfin venait, que les nuages se dissipaient, quelle joie, quelle gratitude heureuse se lisait sur le visage des chercheurs anxieux. Notre gratitude envers Dieu était aussi complète qu'avait été notre soif de vérité. Certaines nuits, nous ne pouvions dormir tant nos cœurs débordaient d'amour et de reconnaissance. Ceux qui s'en vont maintenant prêcher la parole ont tout ce qu'il leur faut à la portée de la main. Ils ne connaissent pas les privations endurées par leurs prédécesseurs. La vérité leur a été apportée point par point, si bien qu'elle forme maintenant un ensemble clair et harmonieux. Mais cette clarté et cette harmonie n'ont été obtenues que par une recherche persévérante. L'opposition la plus cruelle et la plus décidée conduisit les serviteurs de Dieu à rechercher le Seigneur et à sonder leur Bible. Elle leur était précieuse, la vérité qui venait d'en haut. Au moment de la victoire finale, Dieu n'aura que faire de ceux qui ne se montrent jamais au moment du danger alors que la force, le courage et l'influence de tous sont requis dans la lutte contre l'ennemi. Ceux qui sont les fidèles soldats du combat contre le mal, les champions de la justice qui luttent courageusement contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre l'impiété des personnes haut placées, recevront les félicitations du Maître, qui leur dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. » Celui qui ne se rend pas compte qu'il est entièrement dépendant de Dieu va à un échec certain. Nous nous attaquons à plus fort que nous. Satan et ses armées sont constamment en éveil pour nous assaillir de tentations auxquelles il nous est impossible de résister avec notre propre force et notre propre sagesse. Toutes les fois que nous laissons nos cœurs se détourner de Dieu, que nous exaltons le moi ou que nous nous confions en nous-mêmes, nous sommes sûrs d'être terrassés. Le monde ne saura jamais ce qui se passe dans le secret entre l'âme et Dieu, l'amertume de l'esprit, le dégoût de soi et les constants efforts que l'on fait pour arriver à se maîtriser. Mais bien des gens dans le monde pourront apprécier le résultat de ces efforts. Ceux qui ont l'expérience la plus profonde des choses de Dieu sont les plus éloignés de l'orgueil et de l'exaltation du moi. C'est lorsque les hommes ont les conceptions les plus hautes de la gloire et de l'excellence du Christ que le moi est abaissé et qu'ils sentent que la place la plus infime au service de Dieu est encore trop honorable pour eux. Le Seigneur désire que nous allions sur la montagne, pour nous trouver directement en sa présence. Nous sommes sur le point d'aborder une crise qui, bien plus que jamais auparavant, depuis le commencement du monde, demandera l'entière consécration de chacun de ceux qui portent le nom de chrétien. Puisse Dieu donner à ses serviteurs l'illumination de la sagesse, afin que l'empreinte de l'homme ne se discerne sur aucune des grandes et importantes choses que nous aurons à entreprendre.